There is no such thing as jazz. There's only a song. And your spirit. And your ancestors.
There is no such thing as jazz. There's only a song. And your spirit. And your ancestors. I don't know what I'd have done without Billie Holiday or Bessie Smith or Sarah. All these I follow in a tradition. Never sounded like anybody but themselves.
Super Jazz Woman. Quand les musiciennes libres d'hier inspirent celles d'aujourd'hui.
Bonjour Chloé.
Bonjour Guillaume. Alors bienvenue sur le podcast Super Jazz Woman. On enregistre aujourd'hui le premier épisode et on est ici au Petit Faucheux à Tours, la scène, une des scènes incontournables du jazz hexagonal.
Alors Super Jazz Woman, c'est le podcast qui nous fait découvrir des musiciennes parfois laissées dans l'ombre et qui ont développé des capacités d'adaptation hors normes pour affirmer leur place dans un milieu essentiellement masculin.
Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume Hasbrouck, pianiste, compositeur, fondateur de la compagnie Frasque et initiateur de projets artistiques tels que l'opéra Les Sauvages ou encore Pigment and the Clarinet Choir.
Et donc à mes côtés, Chloé Caïton, qui est musicienne, chanteuse, active au sein de multiples projets et formations. Tu as participé notamment récemment à la recréation d'Anna Livia Plurabelle d'André Auder avec l'Orchestre National de Jazz.
Super Jazz Woman.
Aujourd'hui, on accueille la Super Jazz Woman, Leila Olivesi, pianiste, compositrice, arrangeuse à l'univers musical riche et singulier, qui va nous faire découvrir également une de ses sources d'inspiration, la pianiste Jerry Allen. Leila Olivesi, bonjour.
Bonjour. Donc Leila, on va évoquer ton parcours et ta musique à travers le portrait de Jerry Allen. Donc, ce sont des portraits subjectifs. Hein. Nous, on a imaginé, on a construit avec ce qu'on connaissait de vous ou ce qu'on ressentait en croisant vos univers.
Et un peu plus tard, on va démêler une question un peu épineuse du jazz qui est celle de l'essentialisation et des préjugés qui consistent à définir ce que serait un jeu féminin ou masculin.
Et puis, on n'est pas au Petit Faucheux par hasard puisque on a aussi envie de profiter de cet endroit pour jouer ensemble. D'entendre un extrait de la suite Andaman. C'est une suite qui compte 4 mouvements. C'était un extrait du premier mouvement qui figure sur l'album de Leila Olivesi qui s'intitule d'ailleurs Suite Andaman et sur lequel j'ai eu l'honneur, le plaisir de chanter. Voilà, c'est un album qui est sorti en 2019.
En réfléchissant en fait à ta musique, en l'écoutant, on l'a croisée avec celle de Jerry Allen et on a trouvé quelques points communs. Jerry Allen est pianiste et compositrice, comme tu l'es également. Et on a voulu explorer un petit peu 3 lignes de force qui nous semblaient communes. La première, c'est le rapport à l'histoire du jazz. On connaît ta relation profonde à la musique de Duke Ellington et à celle de Billy Strayhorn. D'ailleurs, on va écouter tout de suite Duke Ellington. En fait, la musique de Duke Ellington dans le cadre d'une thèse de doctorat. Et en fait, Jerry Allen, chez elle aussi, il y a une connaissance profonde de l'histoire de cette musique. D'ailleurs, quand elle jouait avec Ornette Coleman, elle disait convoquer en fait toute sa connaissance de l'histoire du jazz, du stride, jusqu'à Cecil Taylor.
Un autre aspect commun de vos musiques, c'est un certain sens de la dramaturgie. Il y a chez toi, je sais, un soin particulier à la mettre en scène, la musique, par le biais d'images que tu convoques, de couleurs, de poésie aussi, un croisement des arts, hein, des disciplines, qui plonge l'auditeur dans un univers onirique et qui convoque chez lui ou chez elle une écoute particulière. Je sais qu'en public, par exemple, quand on est en concert, tu n'hésites pas à prendre la parole pour planter le décor en quelque sorte.
Et puis le dernier point, c'est que, et qui rejoint ce que disait à l'instant Chloé, c'est que cet aspect en fait, d'intérêt pour d'autres disciplines, la peinture, la poésie, du coup, tu abordes le jazz non pas comme un simple fait musical, mais comme un fait culturel plus large, en fait. Et du coup, tu t'intéresses à des manifestations vraiment globales de cette musique, en prenant en compte en fait, les sources profondes de cette musique. Et on trouve également cette chose-là chez Jerry Allen, qui notamment a intégré beaucoup de musique, les musiques caribéennes ou les musiques cubaines dans sa musique, notamment au moment où elle travaillait avec Steve Coleman au sein du mouvement M-Bass. We have some magic deep down inside us. You know which moment our magic finds us. We go to you and throw our arms around you. You're safe inside us, we're safe inside you. You are our treasure, we've none without you. You're a bright green light that goes through the night. Open on all sides, changing directions. Having no fears of unanswered questions. Knowing the answers here deep down inside. Chez Jerry Allen, cette prise en compte des musiques caribéennes qu'elle incorpore à son langage, on connaît chez toi ton intérêt pour les musiques mauritaniennes notamment, mais peut-être qu'on va développer là-dessus, tu vas nous apprendre des choses. En tout cas, il y a un intérêt peut-être pour les récits en fait, des histoires qui excèdent en fait, le simple fait musical.
Voilà, on a dit beaucoup de choses. Peut-être qu'on va te laisser réagir voilà, à l'écoute de ces portraits croisés. Est-ce que tu t'y retrouves ?
Oui, alors je me retrouve effectivement dans ce lien avec Jerry Allen parce qu'en fait, cette pianiste m'a énormément marquée. C'était un concert qui a eu lieu le 3 juillet 1994. J'étais lycéenne à l'époque et je jouais déjà du jazz. Et en fait, je suis allée voir Ornette Coleman quartet au Festival de la Villette qui s'appelait All That Jazz à l'époque, dans la Grande Halle. Et en fait, j'étais sidérée par cette musique au départ parce que c'était complètement dehors de tous les cadres que j'avais l'habitude de fréquenter et c'était complètement free et c'était inattendu et très improvisé. Et j'avais pas encore accès, mon oreille n'était pas encore éduquée à ce langage-là. Et à cette ouverture-là. Et donc, j'étais un petit peu perdue. Et au bout de quelques minutes, quelques morceaux, j'essayais de trouver un endroit dans cette musique, dans ce groupe où m'accrocher. En fait, j'ai vu Jerry Allen au piano, qui était assise avec une intensité. C'est ça, sa posture était hyper intense. Elle était comme ça, très droite, très, très forte. Elle avait un jeu de piano super musclé. Elle jouait énormément d'octaves de partout et en fait ce qu'elle jouait me paraissait tout d'un coup complètement limpide et au bout d'un moment grâce à elle, grâce à sa musique et grâce à son jeu j'ai réussi à rentrer dans le reste du groupe et à écouter la musique jouée par le reste des musiciens et à comprendre une certaine forme de logique qui passait par elle en fait et donc ça a été une vraie révélation, c'était complètement magique. Et à la suite de ce concert, je la connaissais pas avant, en fait, j'ai commencé à chercher ce qu'elle avait fait d'autre et essayer de découvrir sa musique à elle. Et donc là, j'ai écouté l'album qui s'appelle 21, qu'elle a fait avec Ron Carter et Tony Williams, qui m'a complètement décoiffée, que j'ai écouté en boucle pendant des mois, voire des années, et dont j'ai relevé certains morceaux que je joue encore aujourd'hui, en fait, qui sont vraiment important pour moi. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs, on retrouve ça dans d'autres disques où elle joue des claviers, où il y a un autre son, une autre ambiance, mais j'adore son amour pour les petites ritournelles. Elle fait des petites ritournelles, voilà, qui sonnent parfois un petit peu enfantin, mais qui sont après une porte d'entrée vers plein d'harmonies, plein de couleurs qui m'inspirent vachement et qui viennent donc là plutôt effectivement de l'époque M-Base. Et en fait, ça a été aussi pour moi une porte d'entrée vers toute cette musique-là. Steve Coleman et Andy Milne à sa suite, et donc des artistes en fait qui ont développé des couleurs harmoniques qui étaient plus proches du jazz moderne et qui m'animent encore jusqu'à aujourd'hui.
Et parce que jusque-là, c'était qui finalement tes sources d'inspiration avant de la rencontre avec Jerry Allen?
Alors, on peut dire qu'à cette époque, j'ai été vraiment à fond dans Herbie Hancock. Je pense. moi, en fait, un des disques d'Herbie qui m'a le plus touché, c'est Inventions and Dimensions, qui est un disque qui peut paraître comme ça un petit peu abstrait, mais il y a des percussions, il y a aussi le sens de la ritournelle, il y a des formes vachement expérimentales aussi parfois. Voilà. Et puis c'est tout l'univers, je trouve très très riche aussi rythmiquement, harmoniquement de ce musicien. Il m'inspirait beaucoup à l'époque, je me souviens. Wayne Shorter, qui est mon grand maître aussi, et qui a aussi d'ailleurs développé pas mal de couleurs qui sont proches de ce qu'on peut entendre chez Jerry. Et qui a aussi un super sens de la mélodie en fait. Comme Duke Ellington, en fait, finalement, moi j'adore les grands mélodistes.
Chez Jerry Allen, il y a plein de dimensions en fait dans sa musique. Il y a les musiques caribéennes, cette liberté du free jazz, mais aussi elle a une connaissance du stride incroyable. Elle a joué dans un film de Robert Altman où elle incarne Mary Lou Williams. Donc c'est plein de facettes. Et de ce que m'a dit Chloé, chez toi aussi, il y a ta musique, elle ouvre plein de portes et elle convoque plein d'univers en fait. Est-ce que tu veux nous parler de ça un petit peu?
Oui, alors le côté multiculturel de ma musique vient certainement de ma multiculturalité à moi. D'emblée, moi j'ai grandi à Paris, mais dans un milieu vraiment cosmopolite. D'un côté mon père mauritanien qui recevait toujours des ambassadeurs et des gens de la famille et plein de personnes de passage à la maison. Ma mère corse, mais qui avait grandi au Maroc et qui avait comme ça tout un réseau d'amis artistes et militants politiques. Voilà, c'est, à la maison, c'était vraiment la plaque tournante de l'esprit de Bandung, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire l'élan de décolonisation, d'indépendance des peuples opprimés, etc. Voilà. Et donc, à la maison, il y avait toujours beaucoup de monde qui passait, et des artistes aussi, et notamment Nina Simone, par exemple. Qui a habité chez moi pendant quelques temps, à un moment donné, quand j'avais 4 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça. Il y avait aussi des musiciens argentins qui venaient à la maison parce que ma mère travaillait avec un réalisateur argentin qui s'appelle Fernando Solanas. Donc Nestor Marconi est venu jouer du bandoneon à la maison. J'ai grandi à la fois dans Miles Davis, Charlie Parker qui tournait sur la platine, et puis plein de rencontres multiculturel. Et par moi-même aussi, j'ai été chercher pas mal de d'influences en fait qui m'attiraient. J'ai passé beaucoup de temps à Cuba. Et puis j'ai appris à jouer un petit peu des percussions là-bas. J'ai aussi essayé de comprendre la musique de l'intérieur au niveau piano, mais aussi voilà en général. J'ai été aussi en Asie où j'ai cherché des inspirations pour cette suite andaman. Donc j'ai écrit au bord de la mer andaman. Et j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour les langues en général. Pour moi, c'est aussi un véhicule
qui
transporte une certaine musicalité. Donc effectivement, je me nourris de pas mal de choses. Peut-être que par rapport à quelqu'un qui n'écouterait que du jazz, peut-être que j'essaye d'ouvrir un petit peu plus. Au niveau rythmique, par exemple, j'essaye d'incorporer un esprit un petit peu africain parfois. Je suis ouverte à tous les vents.
Ouais, et puis aussi, je me souviens des poèmes de ta mère que j'avais eu l'occasion de chanter, que tu as mis en musique aussi. Je trouve que c'est un défi de faire entrer aussi la poésie dans sa musique. Mm-hmm. Et puis, ça veut dire manipuler la langue. lui donner voilà, des intentions et puis après mettre une voix, choisir une voix. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup intéressée. Ça m'a un peu interpellée parce que les textes, ils étaient assez atypiques. Voilà. Et à chanter, il faut les incarner. Quoi. Ouais. Mais je ne sais pas, ce rapport à la poésie ou à la poésie de ta mère, est-ce que tu peux peut-être en dire un mot ?
Effectivement, je me suis vraiment amusée à sculpter une musique qui prennent corps à partir du poème, en fait. Parce que les poèmes que j'ai mis en musique, ils ont une certaine mise en page qui font que le poème, déjà, induit une forme, induit un espace. Et la musique, pour moi, doit épouser cet espace et le développer, lui donner un petit peu de souffle à certains endroits. Donc en fait, j'en ai fait finalement des suites, des petites suites pour chaque poème. Ça fonctionne pas du tout comme comme une chanson typique refrain couplet refrain couplet. Et en fait, ce livre à partir duquel j'ai composé la musique, Aïcha Kandisha, est vraiment déjà un dialogue entre plusieurs arts. C'est-à-dire, il y a une peintre qui s'appelle Fatiha Rahou qui a peint sous verre. Ma mère qui écrivait les poèmes, et en fait, parfois l'une commençait, parfois l'autre, mais à chaque fois c'était en question-réponse. Mmh. Et donc elles ont construit tout l'ouvrage de cette façon-là. Et ma mère n'était plus là quand j'ai fait le disque L'étrange fleur, mais pour moi c'était comme une troisième dimension que je pouvais apporter à cette œuvre-là. Et par là, transmettre cette vision de la femme qui présente. Surtout l'importance de l'expression du désir féminin. C'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés où la femme n'est pas écoutée et n'est pas représentée par son désir, mais plutôt par son image. Et en fait, dans ce personnage d'Aïcha Kandisha, on a vraiment une femme qu'on pourrait presque appeler une déesse, mais bon, en fait, elle est quand même très, très charnelle, très sensuelle. Une femme qui exprime son désir, qui transmet l'histoire, qui a un discours en fait à la fois d'initiatrice et de véhicule de vérité et d'amour en fait et donc en particulier dans le monde musulman et arabe où la place de la femme n'est pas forcément toujours évidente et donc ce personnage d'Aïcha Kandisha comme ça est très très riche et m'a beaucoup inspirée.
Alors j'ai un petit peu cassé l'ambiance parce que
poursuivons
par rapport à ces représentations extrêmement riches de la femme que tu nous as développées à l'instant, Leïla, on voulait s'intéresser aujourd'hui avec Chloé à une question qui est celle de l'essentialisation dans le jazz. Alors essentialiser, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte de réduire un individu à une seule de ses dimensions. Essentialiser, c'est poser une étiquette. C'est ramener l'individu à un donné stable, un sexe, une couleur de peau, par exemple, pour ensuite l'étendre à toute une catégorie partageant ce même donné et établir à partir de là une hiérarchie entre différentes catégories. En définissant les qualités, on peut déduire une hiérarchie entre les hommes et les femmes, par exemple, Chloé.
Oui. Alors, je vais reprendre des petites phrases comme ça à la volée qu'on a pu entendre, toi comme moi, dans nos parcours respectifs. Par exemple, à propos d'un pianiste qui aurait un jeu un peu délicat, qu'il a un jeu féminin. Ou à l'inverse, une musicienne qui aurait un son puissant et qui jouerait de manière véloce. Voilà, on apprend, enfin, on entend un peu vulgairement qu'elle joue comme un mec.
Voilà, et donc il y a une sorte de partage des qualités ou des attributs qui se fait. Et du côté féminin, on aurait la sensibilité, la fragilité, l'écoute, la propension à la mélodie, à l'interprétation, au feeling. D'autant que les chanteuses représentent une part importante de la présence féminine dans le jazz.
Et du côté masculin, alors on trouve plutôt des qualités comme la virtuosité, la vélocité, le gros son, la solidité, aussi l'aspect créatif, l'aspect réfléchi, complexe, savant en fait, hein, connaissance, plus le côté harmonique. Enfin.
Et dans les faits, en fait, on en parlait à l'instant avec toi, Leïla, quand on s'intéresse notamment à la musique de Jerry Allen, ce simple exemple, eh bien, en fait, ces représentations, ces catégories, elles tombent d'elles-mêmes, en fait. Pour exemple, dès les débuts du jazz, on trouvait des pianistes femmes comme Lil Ardeen Armstrong ou Lovie Austin qui avaient un jeu très puissant et très véloce. Et en fait, il s'agit pas du tout d'une question de genre, mais une question de singularité des individus.
Alors, on va vous faire écouter maintenant un extrait musical, un enregistrement dans lequel un musicien et une musicienne, qui sont tous deux vibraphonistes, il s'agit de Terry Gibbs et Terry Pollard, ça se passe en 1956, et ils s'affrontent sur un blues, Now's the Time, dans la tradition de la joute musicale, d'improvisation. Ils font un chase et on vous met au défi de reconnaître lequel des deux joue à quel moment. Voilà, c'est une superbe archive. On vous invite en tout cas à la visionner sur Internet. C'est vraiment génial. Terry Pollard et Terry Gibbs au vibraphone. Et
est-ce que tu as été confrontée, Leïla, à ce phénomène de l'essentialisation ? Est-ce qu'on t'a parlé de ton jeu qui serait féminin ou pas ?
Oui, parfois, mais en réalité, la plupart du temps, c'était... plutôt tourné comme un compliment. Mmh. Alors évidemment, quand on reçoit un compliment un peu sexiste, genre « Ah, j'ai beaucoup aimé ton solo, c'est très féminin. » Ah.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah alors, non, oui, c'est ça. Donc en fait, la personne n'est pas méchante. Mmh. Elle aime la musique. Bon, elle a peut-être pas juste les mots et les catégories pour penser de la même façon que d'autres personnes. Mais j'ai jamais été, en tout cas, insultée ou vraiment agressée verbalement avec ce genre de propos. Je sais que j'ai des consoeurs qui en ont pas mal souffert. Mmh. Ah si, je me souviens d'une petite histoire. J'avais fait une jam session à Marciac et j'avais jammé avec Ali Jackson, enfin la rythmique de Wynton Marsalis. Et il y a un des musiciens qui était dans les parages à ce moment-là qui a dit le lendemain, « Ah oui, j'ai cru que tu allais te casser les ongles en jouant, tellement t'as joué fort. » Et la personne s'était inquiétée pour mes ongles, alors que j'ai pas les ongles longs, je suis pianiste, donc par définition, on peut pas avoir les ongles très longs. Mais je sais plus, cette personne avait parlé soit de me casser les ongles, ou alors d'abîmer mon vernis, enfin voilà, une petite blague comme ça, pas très sympa. Sur le mode, on rigole bien ensemble, comme d'habitude.
Est-ce que toi, Leïla, par rapport à cette question de la place des femmes dans le jazz, est-ce que tu y verrais aujourd'hui une évolution ? Est-ce que les choses... selon toi, sont en train de changer
Oui, je pense que les choses changent beaucoup. Quand on parle de la place des femmes dans le jazz, c'est pour leur en donner plus. Donc ça, je vois ça d'une façon relativement positive parce qu'il y a plein de femmes qui ont des choses intéressantes à dire et qu'on n'écoute pas assez. Et puis surtout, c'est l'occasion de s'exprimer musicalement, quel que soit le sexe. Enfin, pour moi, je trouve ça bien qu'on en parle de toute façon, que ce soit dans le jazz ou dans la société. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc, vous faites bien de faire ce podcast, les amis. Bravo.
Eh bien, allons-y maintenant dans la continuité de ce qu'on vient d'entendre et de raconter. On va clore cet épisode avec un moment de musique live, une rencontre. Il y a deux pianos à queue sur scène, il y a deux pianistes, un homme, une femme. Donc, on vous met au défi de savoir qui jouera à quel moment. Et on va partager ce moment musical avec une composition de Leïla Olivesi qui s'intitule « Black Widow ».
Voilà, magnifique composition qu'on joue souvent avec Chloé. Ça va être la première fois avec toi. Et puis en introduction, on évoquera un autre morceau de Jerry Allen qui s'appelle
« Little Wind ».
Allons-y.
Thank you.
dance about to start. Mellow cherry melody of your beating heart. Slow down the tempo. Take a breath. You're my guest tonight. Fellow, I'm the widow that hides a wish to
Voilà, merci Leïla, merci Guillaume et à très vite pour le prochain épisode de Super Jazz Woman.
Super Jazz Woman, un podcast réalisé par Chloé Caïton, Guillaume Hasbrook et Lucie Baverel. Enregistrement et mixage, Mathieu Plouchard. Production, Le Petit Faucheux, à l'initiative de Françoise Dupas. Un projet possible grâce au soutien de la DRAC Centre-Val-de-Loire et du Centre National de la Musique.